Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors je vous propose, et j'allais presque dire comme d'habitude, un bouquet de passages. Le premier est tiré de 1 Roi, chapitre 19, versets 3 à 4, versets 9 à 16, et puis versets 19 à 21. Le but quelquefois de la lecture, de longue lecture, c'est de laisser la parole de Dieu elle-même parler. 1 Roi 19, 3 à 4, 9 à 16 et puis 19 à 21, je donnerai la seconde et la troisième portion. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Soulignez bien, retenez bien cela. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Puis il alla dans les déserts où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères et ce n'est pas impossible que ces cris d'Élie soient les cris de quelqu'un ce matin. » Versets 9 à 16. Et là, il entra dans la caverne. Soulignez bien la caverne. Et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchira les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel, et après le vent, se fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu, mur doux et léger. On dit, il s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Souvenez encore ça. Voici une voix lui fit entendre ces paroles bizarres. Une deuxième fois encore, ici Élie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sorti totalement. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et cherche à mon avis. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par les déserts jusqu'à... Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazael pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, Fat d'Abel Meola, pour prophète, à ta place. Verset 19 à 21. Et dès là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Il s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Et lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice avec la telage de bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Nous lisons aussi 1 Roi, chapitre 21. Et là, nous lisons le verset 17 à 19, et puis 27 à 29. 17 à 19, et 27 à 29. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, les Tishbites en ces mots, lève-toi. Descend au devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Les voilà dans la ville de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin, un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait plutôt avec ses sacs et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots: As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir les malheurs pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir les malheurs sur sa maison. Et nous terminons avec deuxième livre des rois, au chapitre 1er. Assez longue lecture, du 1er au 12e verset et du 15e au 16e. Deuxième livre des rois, chapitre 1er, 1 à 12 et puis 15 à 16. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par les treillis de sa maison, de sa chambre haute à Samarie plutôt, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit: Allez consulter Baal Zébub, Dieu des crans, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite: Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur: Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal Zébub, Dieu des crans? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia. Il leur dit: Pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent: Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui: Ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal, Zébub, Dieu des crans? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit: Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent: C'est un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Akaz a compris directement et Akaz dit: C'est Élie le Tishbite. Avec la description et la suite de qui il s'agissait. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et lui dit: Homme de Dieu, le roi a dit: Descends. Élie répondit au chef de 50: Si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et les consumant, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie: Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Et il leur répondit: Si je suis un homme de Dieu, descends du ciel, t'es consumé 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et les consuma, lui et ses 50 hommes. Verset 15 à 16. L'ange de l'Éternel descend avec lui, n'ayant aucune crainte. Élie se leva et descendit vers le roi. Il lui dit: Ainsi parle l'Éternel, m'a envoyé des messagers pour consulter Baal Zébub. Comme s'il n'y avait point en Israël de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, tu mourras. Amen. Comme nous l'avons vu dans le pamphlet, le thème que Dieu a déposé dans notre cœur ce matin à aborder, c'est une question et un ordre. Je voudrais dire que l'enseignement et la prédication de ce dimanche, c'est presque la conclusion du séminaire que nous avons commencé, une vie, un but, une saison. Je dirais même que c'est le plus long séminaire, parce qu'après les 5 jours, le pasteur Flavien est venu dimanche passé, nous pensions avoir clôturé, et moi je viens vraiment pour clôturer. Je viens de la part du Seigneur pour poser une question et donner un ordre comme cela a été fait à l'égard d'Élie. Un homme qui 3 ans et 6 mois avant est apparu comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, après que Dieu l'ait préparé dans les secrets, lui-même ne sachant pas trop pourquoi, et même le peuple ne sachant pas, subitement un homme appelé Élie le Tishbite apparaît, et il apparaît avec quelle force, quelle vigueur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as aucune idée de tout ce par quoi tu es en train de passer. C'est une préparation que tu ignores, que nous ignorons, mais que Dieu est en train de faire en vue d'un but. Les jours où ta saison arrive, les gens vont te découvrir. Ils vont dire, mais c'est toujours la personne qui a été ici. Et là, toutes ces choses pour lesquelles Dieu avait préparé Élie sont mises en exergue. Il s'élève et les gens les découvrent. Quel courage! il n'y aura ni rosée, ni pluie. Et il ajoute, sinon, à ma parole, qui es-tu? Pourquoi toi? Et les gens ont dit, on va voir si sa parole est aussi forte. Une semaine, pas de pluie. Deux semaines, pas de pluie. Une année, 3 ans et 6 mois. Et puis un beau jour, il sort de sa retraite, il lance un défi humainement parlant en termes de pronostics, on dira il n'y a pas match. 450 prophètes de Baal et 400 d'Astarté, 850 d'un côté et lui seul. Et c'est lui qui établit les principes du match. Il est d'un calme olympien. Il dit, pour montrer la force, vous commencez. Et ces gens commencent, ils se déchirent les corps, les sang gicle. Il est tellement sûr de son Dieu. Je ne pense pas que Satan n'existe pas. Je ne pense pas non plus que Satan n'est pas capable de faire des choses. Mais il était tellement sûr que Dieu contrôlait les choses. Il dit, peut-être que votre Dieu dort. Crie un peu plus fort, ça va les réveiller. Peut-être qu'il est en voyage. Et finalement, quand ils ont fini, il les a mis de côté. Vous savez, quand on a Dieu, on ne force pas. Il a pris d'abord la chose qui était la plus rare à l'époque, l'eau. Il a dit, jetez. J'essaie d'imaginer quand on jetait l'eau. Certains avaient les gorges qui se giclaient. Parce que c'était une denrée rare. Comment il gaspille l'eau. Avec Dieu, quelquefois, pour avoir l'eau du ciel, il faut jeter l'eau aussi. Et puis, il fait une prière simple. Que l'on sache que tu es Dieu. Et que l'on sache... Je suis ton serviteur. Rends-moi. Et la Bible dit, le feu descendit. Tellement sphère. Il dit, à des balles. Attrapez l'Astarté. Et il a cette merveilleuse scène où tout le peuple s'est incliné par terre. Chose qui était un rêve. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et alors que Dieu commençait avec lui. Alors que Dieu ne fait ouvrir la page des grandes choses qu'il a à faire pour lui. Le lendemain, il reçoit un message dont l'authenticité n'est pas. Il n'a même pas entendu cela face à face. C'est des secondes mains qu'on vient lui dire que Jézabel a dit ça. Je n'ai pas fait de toi ce que tu as fait avec les autres. Un pasteur a dit qu'on m'ajoute un sixième doigt. Bizarre. Les héros de Dieu s'enfuient. Il n'a pas le temps de dire au revoir. On sait voir la poussière. Il bat les records du monde de 100 mètres. Plus que Usain Bolt. Rapide, fouille. Presque une journée de marche. Et c'est lui pour que Dieu avait encore un plan glorieux, merveilleux, de grands exploits à accomplir, va se retrouver dans un endroit, une caverne. Et quand il est dans la caverne, il tire une conclusion. Ma mission est finie. Je ne suis pas meilleur. Prends-moi. J'aime quand la Bible dit, nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos voix ne sont pas ses voix. Alors que lui, il a l'impression que tout est fini. Dieu vient, d'abord, il lui pose une question à deux fois. Que fais-tu ici? Il veut lui dire, c'est pas ici que je t'attends. Et puis de deux, il lui dit, sors. C'est pas ta place. Et ce matin, Dieu m'envoie aussi pour poser la question à plusieurs qui ont commencé à faire des choses, mais qui pour une raison ou une autre se trouvent dans des cavernes. Tu n'as aucune idée. Tu as apparemment l'impression d'avoir un voisin libre, mais il est dans une grosse caverne. Réelle, mais invisible. À toi, Dieu me dit de te poser la question, que fais-tu à cet endroit? Mais de deux, Dieu me dit de te dire, sort. Ce message s'adresse à cette catégorie de personnes. Ce message s'adresse premièrement aux hommes et aux femmes qui sont à l'arrêt par rapport au parcours de leur vie. Un arrêt qu'ils ont accepté. Un arrêt qu'ils ont accepté, même qu'ils sont en train de subir. Cet arrêt n'est pas voulu forcément. Cet arrêt est imposé. Imposé par les hommes et imposé par les circonstances. Parce que quand il s'est retrouvé dans la caverne, il n'aurait pas voulu être là. C'est à vous que ce message s'adresse. Deuxièmement, ce message s'adresse aux hommes et aux femmes qui sont dans un parking sans mouvement et sans initiative. Les véhicules de leur vie étaient en motion, en mouvement, mais pour une raison ou une autre, un peu comme les véhicules de Formule 1, ils sont rentrés dans un stand pour les ravitaillements et ils se sont arrêtés alors que la course de la vie continue. J'aimerais dire à un véhicule, ta place n'est pas dans le parking. Ta place est sur la route. Il y a des victoires devant toi. Troisième catégorie de personnes à qui je m'adresse, aux hommes et aux femmes qui pour une raison n'attendent pas, n'attendent plus de la vie. Des gens qui ne les disent pas, mais qui dans leur fort intérieur, les bonnes choses appartiennent au passé. Ils ont un passé riche dans lequel ils aiment le plus souvent aller se plonger quand nous fûmes, quand nous eûmes, quand nous nous réjouissâmes. Passé riche, présent pauvre, mais surtout avenir incertain, sombre, tout est noir. Quatrième catégorie des hommes et des femmes pour qui Dieu m'a donné ce message. Ce sont des hommes et des femmes qui, dans leur fort intérieur, ont un goût d'inachevé. Ils savent qu'ils peuvent plus. Ils savent qu'ils veulent plus. Ils désirent plus de la vie. Mais ils se rendent compte que peut-être les mauvais choix, les mauvaises situations les ont bloqués. Ils disent, j'aurais pas voulu être là. Mais mes erreurs m'ont placé là. Ces mauvais choix. Ah, si la vie était à refaire. Ils vivent dans la frustration. C'est à vous que Dieu veut que je puisse m'adresser. Cinquième catégorie de personnes à qui Dieu veut que je puisse m'adresser, c'est aux hommes et aux femmes qui ont l'impression qu'ils sont passés à côté. Ils ont échoué. Comme en football, vous savez, quand on tire les ballons, si ça passe de loin, on ne regrette pas trop. Mais si c'est juste à côté au stade, donc, ouah! Presque! Il y a des hommes et des femmes qui sont ici. Et ils sentaient qu'ils étaient presque à côté de quelque chose. À l'orée d'une ère nouvelle. Et ils sont passés à côté. Soit ils les reconnaissent, soit par orgueil. Ils ne veulent pas les reconnaître. Quand les gens leur posent la question, comment ça va? Ça va bien. Mais au fond, ils savent que ça ne va pas. Une vie de regret. Ils ont l'impression qu'ils sont passés à côté. Qu'ils ont échoué. Qu'ils n'ont rien fait de bon. Et même qu'ils ne peuvent rien faire de bon. Des gens pour qui le reste de la vie est comme une salle d'attente de la mort. Toutes ces années qui passent, 5, 10, 15 ans, ne sont qu'une salle d'attente où ils attendent les grands départs. Sixième catégorie de personnes pour qui Dieu m'a donné ce message, ce sont des hommes et des femmes qui ont commis des erreurs, qui ont fauté, et qui ont été sanctionnés par la vie, sanctionnés par la société, sanctionnés par les regards des autres. Et même, et ça arrive souvent,
sanctionnés par eux-mêmes. Vous n'avez aucune idée combien la culpabilité, les remords peuvent détruire. J'ai souvent, en tant que pasteur, été en contact des gens qui ont fauté et trois fois sur quatre, ceux qui font des mauvais choix qui amènent de mauvaises conséquences souffrent le plus s'ils étaient ou elles étaient avertis. Les gens leur disaient, ne va pas, ne te marie pas à cet homme. Et ils se sont entêtés. Et des fois, les autres ne leur disent rien. Mais seulement dans les regards, c'est comme s'ils veulent leur dire, tout ce qu'ils veulent. Où est-ce qu'on nous en sommes finalement? Tu as vu? Combien c'est dur de savoir soi-même qu'on est à la base de ces choses. Les Français ne disent-ils pas avec ici dans le monde? Avec une femme au bureau qui pleurait, à chaud, la couleur des yeux, ça coulait des narines. Pasteur, Jean-Jacques Alinga Kangana est unique. Jean-Jacques, moi, j'étais à l'université, un garçon simple. J'avais foi, on ne sait pas. C'est comme si j'étais. Et elle m'a dit que je n'ai jamais oublié. Elle dit, pasteur, j'aurais bien voulu, c'était la chaise, j'aurais voulu que la vie soit comme une cassette VHS. On peut mettre un rewind, retourne plusieurs années en arrière, qu'on se retrouve encore là et que je prenne un autre choix. Ah, dans la vie, il n'y a pas de rewind. Est-il quelqu'un qui vit dans la culpabilité? La culpabilité a quelquefois amené au suicide. Mais quelquefois, elle n'amène pas à un suicide direct, à un suicide indirect. Vous savez, tout ce que l'on a comme souci, ça produit des toxines. Et ces toxines, vous verrez, une jeune femme de 32 ans, de 34 ans, elle a l'air d'être une mémé de 60 ans. C'est les soucis faits homme. Elle a 35 ans, elle a des rides de 65 ans, qu'elle cache avec le maquillage, mais c'est toujours visible. Pourquoi tout est produit là? Et en plus, quelques temps après, l'estomac commence à être rongé, ulcère, et que sais-je encore? Je me redirai à ces personnes, avec Dieu, ce n'est jamais fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. Ça revient au moins 16 fois, on dit « après ces choses ». Avec le Dieu de la Bible, il y a toujours un « après ces choses ». Après ces choses. Septième catégorie de personnes pour qui Dieu m'envoie porter ce message sont des hommes et des femmes qui, comme les prometteurs prophète Élie, qui à cause de certaines raisons, font trois choses. Premièrement, ils ont cessé d'être actifs. Je ne sais dans quel domaine. Ils ont cessé d'être actifs. Deuxièmement, ils ont décidé de se cacher dans une caverne. J'en parlerai vers la fin. Endroit de protection et de sécurité apparente, mais endroit de suicide et de gaspillage du potentiel. La caverne apparemment vous protège, mais la caverne est tue votre potentiel. Pourquoi? Parce que celui qui se cache dans la caverne ne sait pas qu'il y a Élisée qui l'attend pour l'onction. Lui, il a l'impression que c'est fini, mais il y a Jéhu qui l'attend. J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans la caverne, tu as l'impression que c'est fini, mais tu as un Élie à former et à influencer. Il est caché à tes yeux. Tu as l'impression que plus rien de bon ne doit venir. Mais tu as encore des choses. Tu as Azaël à oindre. Et quand on est dans la caverne, on ne voit pas ça. J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans la caverne, tu as encore à voir Akab qui se répand. Parce que plus tard, la Bible nous montre que quand Élie est sorti, il a adressé une parole. Il a assisté à la scène. Akab qui se répand et qui porte un sac. Et la Bible dit, il marchait lentement. C'est lui qui avait dit, donne-moi la mort. Quand il voit Akab pleurer, il dit, waouh, j'allais rater ça. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu a pour toi. Celui qui est dans la caverne et qui a l'impression que tout est fini, il ne sait pas qu'il a encore le feu du ciel à appeler. Il a l'impression que le seul feu, c'était le feu du Mont Carmel, alors qu'il y avait encore un feu pour montrer ce que Dieu a encore. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Mais j'aimerais dire aussi à l'église, ne mettons pas dans la caverne des gens que Dieu n'a pas mis dans la caverne. Quelquefois dans l'église, nous avons des cavernes avec des clés. Nous prenons des gens qui ont fauté, qui ont fait ce sont des places en des yo, qu'on bim à les sociétés. Pasteur, attends, c'est pas qui ça cadena. Nous enfermons les gens. Dieu merci que Dieu n'est pas un homme. Si Dieu était un homme plus lassé. Si volant dans l'eau, si il n'y aura que des gens dont le nom n'est pas haut. Ou Kanga. Je prie pitié de ceux qui sont de la tribu de ma femme. Mais Dieu merci, c'est lui qui décide. Troisième chose, septième catégorie des hommes et des femmes, tant des n'espère, comme Élie les prophètes, une chose comme la porte de secours et comme une issue de délivrance, la mort. Vous n'avez aucune idée de celui à côté de qui vous êtes assis. J'ai parlé un jour avec une femme, il dit, pasteur, il y a deux choses qui m'empêchent de me suicider. Premièrement, la peur de l'enfer. Mais deuxièmement, je dis, à qui je laisserai mes deux enfants? Si je ne les avais pas, je partirais. Elle m'a même dit un jour, pasteur, un jour, j'étais tente et j'ai dit, est-ce que je ne peux pas mettre de la cyanure dans leur nourriture pour que les deux partent avant et que je parte aussi? Vous n'avez aucune idée. Certains qui, en dormant, souhaitent, Seigneur, est-ce que tu peux pas me rendre service? Que je ne me réveille pas. Tellement c'est dur. Réputation salie, les portes qui se ferment, plein de choses, frustration sur frustration. À ces hommes et à ces femmes, je viens de la part du Seigneur faire ces deux choses. La première, leur poser la question que Dieu a posée à Élie à deux reprises dans 1 Roi 19, verset 9 et verset 13. Que fais-tu ici, Élie? La version Tob dit, pourquoi es-tu ici? Cette question parle de trois choses, d'un homme, d'un endroit et d'une activité. Il veut dire, toi, ici, pourquoi? J'aimerais dire, il y a certaines personnes qui ne doivent pas se retrouver à certains endroits, faisant certaines choses. Je t'attends ailleurs, je t'attends actif, je t'attends osant des choses. Que fais-tu ici? Aide-moi à poser la question à ton voisin, à ta voisine. Que fais-tu ici? Et quand Dieu dit, que fais-tu ici? Il savait où s'est trouvé, dans une caverne. Il voulait lui dire, cet endroit, ce n'est pas ta place. Il veut lui dire, si tu restes ici, Acab va régner. Si tu restes ici, Jézabel va régner. Que fais-tu ici? Il veut dire, si d'autres veulent se retrouver ici, je ne ferai pas de problème. Mais toi, non. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a tellement investi en toi que tu ne peux pas chômer. Dieu a tellement placé des choses en toi que tu ne dois pas t'arrêter. J'ai prié toute cette semaine en disant, Seigneur, donne-moi les mots qu'il faut. Donne-moi la phraseologie qu'il faut. Hier, je disais, donne-moi les faciès qu'il faut. Donne-moi les mimiques qu'il faut. Donne-moi tout ce qu'il faut pour que je communique suffisamment ce message. Que fais-tu ici? Le début du verset 9 et verset 13 nous donnent des indications sur la localisation d'Élie. Il est dit, et là, Élie entra dans la caverne et il passa la nuit. Il est dans la caverne. C'est pourquoi Dieu lui pose la question. Que fais-tu ici? Et quand Dieu lui parle, écoutez ce que le verset 13 dit. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage, il sortit et se tient à l'entrée de la caverne. Il ne veut pas sortir à l'entrée. C'est pourquoi Dieu lui a posé la question deux fois. Certes, tu as bougé un peu, mais tu es encore presque dedans. Que fais-tu ici? Il veut dire sors totalement. Je prie qu'après ce message, quelqu'un s'élève, quelqu'un se relève. J'ai une vision. Hier, j'ai nos assemblées de Dieu un peu plus tôt et j'avais tellement cette réunion, je me suis mis à genoux de 13h jusqu'à 15h. J'ai pleuré, ça coulait des yeux, ça coulait des narines. Je disais, Seigneur, aide-moi à parler lors de cette réunion. Et j'ai vu une vision claire, je ne sais pas en combien de temps, une minute et demie. J'ai vu que j'étais à un endroit où il y avait, c'était presque comme une sorte de... On faisait des... Et on enterrait des gens enchaînés, mais des gens vivants. Qui se battaient. On les en jetant l'eau. Et j'ai vu même, on a enterré quelqu'un, mais la terre bougeait parce que la personne, il voulait faire un effort pour sortir. La deuxième que j'ai vu, et ça m'a poignardé les cœurs. J'ai vu plusieurs personnes, presque une cinquantaine. Je ne sais pas qui avait creusé les trous, mais ils étaient dedans dans la trou, dans les trous. Et ils avaient comme une sorte de bêche. Mais bizarrement, chacune de ces personnes, sa main était suffisamment longue pour être dehors. Et eux-mêmes, ils prenaient avec la bêche la terre, et ils s'enterraient. Ils pleuraient. On pouvait voir par leur faciès qu'ils ne voulaient pas. On dirait qu'ils étaient obligés. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Il m'a dit, Roland, il y a plusieurs qui s'enterrent eux-mêmes. Qui disent, c'est fini. Je suis un raté. Un gâchis. Je me l'ai dit moi-même, on me l'a dit aussi. Mon père me l'a dit. Ma mère me le dit. Mes soeurs me le disent. Tu es la honte de notre famille. Dans notre famille, on ne divorce pas. Tu es la honte. Mais d'autres, par contre, Dieu m'a dit, on les enterre. On dirait qu'ils veulent encore se battre. Mais les hommes les ont placés. Dieu m'a dit, oh non, demain je veux que ces hommes ressuscitent. Et je prie que cette matinée soit celle de la résurrection. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Que fais-tu à cet endroit? Il lui a posé une question, mais deuxièmement, il lui a fait comprendre que là où il était, c'était un endroit où il ne devait pas être. J'aime 1 Roi 19, verset 15. Il lui dit, d'abord au verset 11, il dit, sors, sors. Je suis venu dire à quelqu'un qui est dans la caverne, sors, sors de cet endroit, quitte cet endroit. Mais au verset 15, il ajoute, va, reprends les chemins. Sors et retourne d'où tu viens. Sors, va encore oser des choses. Sors et accomplis encore des exploits. Je les proclame comme pasteur et Dieu me donne la bouche d'un prophète. Je ne sais qu'est-ce que tu as accompli. Je ne connais les erreurs que tu as eu à commettre. Je te dis, sors. Mais je te dis aussi, reprends ton chemin. Et j'aimerais te dire, en reprenant ton chemin, bouche les oreilles. Vas-y, car c'est Dieu qui t'a dit. J'aime quand Dieu parle. J'aime quand Dieu parle. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et ces religieux, ils ont trouvé que c'était la pourriture de la vie. Elle a trompé son mari. Quelle honte. Elle l'a amené devant le Seigneur. La loi de Moïse dit que de telles femmes doivent être lapidées. C'est-à-dire pour éradiquer le mal. Et toi, que dis-tu? Ah, vous connaissez l'histoire. À la fin, tous se sont retirés. Waouh! Et la sainteté s'est retrouvée avec la saleté en face. Là où les autres ne pouvaient pas jeter la pierre, la sainteté pouvait jeter la pierre. Mais les saints la regardaient et dit, va et ne pêche plus. Alors que les gens estiment que vu ce qu'elle a fait, rien de bon ne peut sortir. Lui, il croit encore que le bon peut sortir. Et ne pêche plus. Déclarant, il voulait dire quoi? Va dans la même ville. J'aimerais dire, dans la même ville, les gens t'ont étiqueté. Tu passeras et dis, on dit, maman, on va quand même. Mais j'aimerais dire, contenté. ma courte existence, j'ai vu le Dieu du ciel se servir du temps pour changer les choses. Le Dieu du ciel se servir du... J'aimerais dire à quelqu'un, on est à caverne. Mais j'aimerais dire aussi, va et reprends ton chemin. La version courante dit, retourne les mêmes chemins. Refais les mêmes choses. Pourquoi tu dois sortir de la caverne et pourquoi tu dois retourner? Deux raisons. La première, parce qu'il y a encore des choses que tu dois faire. Il y a encore des exploits que tu dois accomplir. Mais deuxièmement, parce que la caverne n'est pas ton endroit. Ou du moins, pas ton endroit pour le moment. Le verset 15 et 16 que nous avons lu montre qu'à l'homme qui croit que tout est fini, qu'il a encore des choses à faire, tu oindras Azaël, roi de Syrie. Tu oindras Jéhu, fils de Nimshi. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat. Et une étude approfondie montre que Élie a vécu encore au moins 6 ans après ses récits de la caverne. 6 ans. Alors que lui-même pensait que tout était fini. Un roi chapitre 19, verset 19 à 21 que j'ai mentionné, nous montre que Élie a oint Élisée et a pu l'influencer pour le préparer. Seigneur, je ne veux pas me suicider dans la caverne alors qu'il y a encore un Élisée que je dois préparer. Aide-moi à ne pas partir sans avoir accompli pleinement. Nous en avons parlé tout au long de cette semaine. La semaine passée plutôt, la semaine d'avant, quand il est dit de David, après avoir servi au dessein de l'Éternel, il est mort, a été enseveli avec ses pères. Seigneur, je ne partirai pas sans avoir accompli le dessein de l'Éternel. Je ne partirai pas, je partirai comme l'apôtre Paul en disant, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Je partirai comme Siméon, où moi-même j'aurai l'impression que tout est fait. Je dirai, Seigneur, maintenant tu peux prendre ton serviteur, car mes yeux ont vu, mais pas avant. Je ne partirai même pas à moins 10, même pas à moins 5, même pas à moins 6. Je partirai à pile, pas avant. Aucun poison ne me fera partir avant, aucun complot, aucune coalition. Car celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Que fais-tu là? Sors de cette caverne. Reprends ton chemin. Deux Rois chapitre 2, versets 3 à 5, nous montre qu'après qu'il soit sorti de la caverne, il a eu à monter 2 instituts bibliques. En ayant 50 fils des prophètes à chaque endroit. Il les a influencés sans fils des prophètes qui auraient manqué d'être formés parce que quelqu'un a failli se suicider. Aide-moi à dire à ton voisin, ne meurs pas avec nos choses. Attends, je te condamne, tu ne dois pas mourir avec nos prédications et nos chants. Avant de partir, tu dois tout vomir. Et moi-même aussi, je ne partirai avec aucune prédication. Il est bon que les jours on me jette dans la tombe, même la terre dit ya. Un roi, chapitre 21, verset 17 à 19, ainsi que 27 à 29 que nous avons lu, nous montre qu'il a assisté au repentir d'Akab. Akab, le teigneux. Akab, l'orgueilleux. Il y a assisté. Au jour où Akab s'est répandu, l'Amédie l'a vu portant les sacs et marchant lentement. Les gens se demandent, est-ce le mari de Jézabel? Que des choses nous ratons? Que des choses nous empêchons parce que nous sommes dans la caverne? Les deux rois chapitre 1, verset 1 à 12, 15 à 16 que j'avais mentionné, nous montre qu'il a eu exercer cette influence. On appelle brise le feu du ciel. J'aimerais avant d'aller tout à l'heure vers Lyon, faire mention de choses, et puis je donnerai les signes attachés à la caverne. J'aimerais d'abord dire que le mot caverne, au singulier et au pluriel, se retrouve dans la parole de Dieu 50 fois. 12 fois au singulier, 38 fois au pluriel. Deuxième des choses, ces mots tirent sa source d'un mot latin, cavernia, qui signifie cavité ou ouverture. La caverne désigne une cavité souterraine d'origine naturelle formée du rocher et située le plus souvent sous des montagnes ou sous la terre. Les cavernes sont souvent souterraines. Elles sont la plupart des fois fermées de tous côtés et il y a une seule ouverture. Dans la Bible, les cavernes représentent les endroits où l'on vient se cacher et où l'on vient cacher des choses momentanément ou de manière permanente. Dans Genèse 19, au verset 30, parlant de Lot qui fuyait après la destruction de Sodome et Gomorre, il se cache dans une caverne. Écoutez ce que la Bible dit. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses filles. 1 Roi chapitre 18, verset 4, ainsi que verset 13, nous parle d'Abdias, intendant du roi Akab, qui alors qu'on cherchait à tuer les prophètes, il les a cachés par 50 dans une caverne. Encore une fois. Job, chapitre 37, au verset 8, nous présente aussi la caverne comme un lieu de sécurité momentané, mais pour les animaux. L'animal sauvage se retire dans une caverne et il se couche dans sa tanière. 1 Samuel chapitre 13, au verset 6, nous présente encore la caverne comme un endroit où on aime se retrouver lorsqu'on est à bout. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près et ils se cachèrent dans des cavernes. Mais qu'est-ce donc la caverne? Qu'est-ce donc la vraie signification? J'aimerais le dire en 6 points, nous allons clore et je lancerai 3 appels. Premièrement, les cavernes sont des endroits où nous nous trouvons, non pas par la volonté de Dieu, mais à cause des hommes. Comme je l'ai dit, les autres et des fois nous-mêmes. 1 Roi 19, versets 2 à 3, nous montre qu'Élie était là dans la caverne, certes, à cause des menaces de Jézabel, premièrement, mais c'était son choix. Ce n'était pas Jézabel qui lui avait dit, va là. Jézabel a menacé des morts, mais c'est elle qui a choisi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas là où Dieu ne veut pas que tu sois. Tu es un prophète de Dieu. Dieu a des choses à accomplir avec toi. Quelles que soient les menaces, ce n'est pas ta place. Deuxième signification, les cavernes sont des symboles de protection et de sécurité apparente. Mais ce sont des endroits d'assassinat des potentiels et des talents. Dans les cavernes, les potentiels chôment. Dans les cavernes, l'influence ne peut pas être exercée. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la caverne, tu te protèges contre Jézabel, mais tu tues ce que Dieu a placé. Tu fais chômer cela. Pas voir quelqu'un. Tu es très dehors, accomplissant des choses. Reste dans la caverne. Dans la caverne, on fait chier. Les troisième signification, les cavernes nous rendent myopes. Les cavernes faussent notre vision de nous-mêmes, de la vie et de nos capacités. Bizarre. Celui qui a accompli plus qu'aucun autre prophète. Lisez l'histoire du royaume quand c'était un et même quand c'est divisé. Personne n'a ramené le peuple vers Dieu comme lui. Personne. Mais quand il se retrouve dans la caverne, 1 Roi 19, verset 10 et verset 14, à 2 reprises, écoutez sa conclusion. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je suis bon à rien. Combien de fois nous sommes durs avec nous-mêmes? À cause d'une seule faute, nous oublions toutes les qualités que nous avons. Nous pensons être cette erreur-là. Nous pensons être seulement ça. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas seulement cette erreur. Tu n'es pas seulement ces manquements. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Vous savez, la condamnation qui vient de l'extérieur, on peut la combattre. Mais l'autocondamnation, difficile. Lui-même, je ne suis pas meilleur. Je prie que cette myopie spirituelle s'arrête. Quatrième signification. Les cavernes sont des endroits de frustration et de regrets. De frustration et de regrets. Ceux qui se trouvent dans la caverne, ils se mettent à regretter. Ils disent, j'ai déployé mon zèle en vain. Je ne suis bon à rien. Regret et abandon. Combien de fois nous voulons abandonner alors que Dieu a encore des choses avec nous? Dieu m'a dit de dire à quelqu'un cette parole de Jérémie 1, verset 7. Quand Dieu envoie Jérémie, il dit, va et fais telle chose. Écoutez sa réponse. Je ne suis qu'un enfant. J'aime la réponse de Dieu. Ne dis pas que tu es un enfant. Et Dieu m'a dit de dire à plusieurs ce matin, ne dis plus que tu es cette chose. Ne les déclare plus. Ne dis plus que ma vie est finie. Ne dis plus qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir. J'aimerais dire ce matin que tu deviens le prophète de ta vie. Que tu commences à déclarer, mon demain ne ressemblera pas à mon aujourd'hui. Que tu commences à déclarer, je créerai de nouvelles pages dans ma vie. Dieu m'a montré une vision il y a 3 jours. Je voyais un gros cahier qu'on appelait les cahiers de Brion autrefois. Quasiment les un tiers, plein de ratures. Et je vis une main à déchirer ces feuilles raturées. Et comme on faisait quand on était petit, on a retiré aussi les feuilles de l'autre côté. Et on a redonné, on a dit, écris de nouveau. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, de ce matin, il remet les compteurs à zéro. Ne dis plus. Ne dis plus. Acte 18, verset 9 à 11, l'apôtre Paul est à Corinthe et il y a l'adversité au plus fort. Et le contexte montre qu'il est en train de se cacher en attendant de fuir Corinthe. Caverne, frustré. Je n'ai pas le résultat que j'aurais voulu avoir. Trop de contrariétés. Il y a des gens qui, les apôtres de l'effort zéro. Des adorateurs de la facilité. Moi, je les appelle, moi, je veux des Lefouengeba, des Mbadiphones. Des gens, la première difficulté, Mbadi. Les gens de mon côté, c'est les... Ils aiment que tout soit tranquille. Tout n'est pas toujours tranquille. Quelquefois, il faut affronter l'adversité. Paul veut se cacher à cause de la contrariété. Écoutez ce que la Bible dit. Les sanctions pendant la nuit, ne crains point. Et Dieu me dit, les dira. Mais parle et n'était-il. Dieu ajoute, car je suis avec toi. Dieu me dit de dire à quelqu'un, je suis avec toi. Et je me redis, quand Dieu est avec toi, tu ne le sens. On n'a pas toujours besoin de sensations. Contente-toi de ce qu'il a dit. Je suis avec toi. Et il ajoute, personne ne mettra la main sur toi. Et quand j'ai lisé cette parole, tu déclarais en public pour mon jeune frère, serviteur de Dieu, Antoine Soumbouma, personne ne mettra la main sur toi. Personne. 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 Maman Nadège, dormez tranquille. Tu vieilliras avec ton homme. Vous verrez les enfants de vos enfants. Personne ne mettra la main sur vous. Et j'aimerais le déclarer. Celui qui osera toucher ce fils à moi, il partira lui-même en terre. Et si je suis prophète, ose le faire. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Une autre version dit, nombreux sont ceux qui m'appartiennent et que tu dois gagner. Écoutez ce que le verset 11 dit, il demeura là 1 année et 6 mois. Là où il pensait fuir, Dieu lui a dit, j'ai encore des choses. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a encore des choses. Quand j'ai prié, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, il va te réhabiliter ici. Quelqu'un a tendance à vouloir fuir. Je vais aller loin, reprendre ma vie à zéro. Dieu m'a dit, ne fuis pas. Il te donnera un nouveau départ ici. Dites avec moi, ici. En lingala, on dit quoi? En swahili, on dit quoi? À Kikongo, on dit quoi? En tetela, on dit quoi? Là, n'est. Cinquième et avant-dernière chose. Cinquième et avant-dernière chose. Les cavernes sont des endroits où quelquefois Dieu nous laisse et permet que nous puissions nous retrouver, mais pour un court séjour. Un moment réduit. Et à ce titre, quand Dieu laisse que nous soyons dans une caverne, le but c'est soit la protection ou la formation. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne reste pas dans la caverne plus longtemps que Dieu ne l'a voulu. La Bible nous montre dans Matthieu, au chapitre 2, verset 13, puis verset 19 à 21. Jésus-Christ était à un endroit et il était menacé. Et Dieu l'a caché dans une caverne appelée Égypte. Il a dit à Joseph, la Bible dit, lorsque les mages furent partis, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends les petits enfants et sa mère, fuis en Égypte. Bizarre, c'est Dieu qui propose la fuite. Les dieux tout-puissants. Dieu lui-même utilise les termes, il dit fouille. Les gens de moi à Kinshasa, le zone où on a grandi, on dira tout l'amour ici. Et c'est Dieu qui propose ça. Il dit pas marche. Il dit quoi? Fouille. En Égypte. Mais j'aime ce qu'il dit. Reste jusqu'à ce que je te parle. Quand Hérode cherchera les petits enfants pour les faire périr. Mais comme nous en parlons lors du séminaire, Dieu sait aussi que le lieu de ton éclosion, c'est dans le pays d'Israël. Il te cache dans une caverne pour un temps, mais quand le temps est passé, écoutez ce que la Bible dit. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte. Il dit, lève-toi, prends les petits enfants et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. 1 Samuel 22, verset 1. T'es caché dans la caverne d'Adulam. Quand Saül chercha les... Mais n'est pas resté à terre. Les cavernes sont autorisées par Dieu pour un temps. Une dernière chose et je termine. Il y a trois ingrédients. Trois ingrédients indispensables pour sortir de la caverne. Quand Dieu te dit de sortir de la caverne, j'aimerais que tu saches, Jézabel s'y trouve encore, dehors. J'aimerais te dire, sa menace ou son fatwa est encore d'actualité. Mais tu as le choix entre croire à la force de Jézabel, croire à sa capacité de destruction ou à la parole de Dieu. J'aimerais dire, c'est ton choix. Quand Dieu te dira, sors de la caverne, il ne va pas tuer Jézabel. Il ne va pas enchaîner Jézabel. Jézabel sera encore là, mais je dis, si Dieu te dit, sors, sache qu'il maîtrise Jézabel. J'aimerais te dire, si Dieu te dit, sors, sache qu'il tient en respect Jézabel. Et il y a ces trois ingrédients importants, indispensables. Quand vous sortez de la caverne, 1, la foi en Dieu. 2, la foi en son parole. J'aimerais dire, si vous avez un ainsi dit l'Éternel, foncez. Et troisièmement, le courage. Le courage, cette force morale qui nous pousse à faire des choses, cette force morale qui nous pousse à avancer. On ne peut parler de courage que s'il y a adversité, s'il y a opposition. J'ai souvent parlé de ça ici. Mon pasteur le fait, Jacques-André Verneau, disait, le courage, ce n'est pas l'absence de tremblement. Le courage, c'est avancer en tremblant. Je tremble, mais j'avance encore. J'ose. Dieu me dit de dire à quelqu'un, aie foi en Dieu. Aie foi en son parole, mais surtout, aie courage. 1 Roi chapitre 19, verset 9. Il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et la question lui est posée, que fais-tu ici? Mais j'aime 1 Roi 19, verset 19. Quand il lui a été dit, sors, vends et reprends ta route. Ma Bible à moi dit, il y partit de là. Il est parti de là. Je me demande comment il sortait. J'aimerais te dire, si Dieu te dit sors, sors alors. Sors réellement. Sors totalement. Et ne peur de rien. Dans Philippiens 4, verset 13, le prophète dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Français courant dit, je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Le plus important, ce n'est pas toi. Le plus important, c'est qui marche avec toi. J'aime souvent donner cette illustration. Je l'ai donnée quelques fois ici. J'ai grandi à une époque où il y avait un vocabulaire qui existait. On appelait ça mitif. Est-ce qu'il y a certains qui connaissent là? De 69 à 76, j'ai habité sur Nzobe, 42, juste derrière bloc commercial. Et l'avenue qui était derrière, c'est l'avenue chez Luango. À l'époque, je pense 72, je devais avoir 8 ans. Mais on avait un gars qui avait 10 ans. Et il avait des jambes grosses comme ça, avec des poils déjà. Alors que nous, on avait des jambes lisses comme des fillettes. Un jour, on jouait au football. Et je lui ai fait un petit pont qu'on appelait Chobo. Et il s'est fâché. Il m'a dit, petit, le jour où je t'aurai sur notre avenue, je vais te couper en petits morceaux comme des cabris. Et chez eux, c'était sur Chiluang, je pense numéro 3 ou 4, juste à côté numéro 1, on vendait de la boisson sucrée. C'est l'endroit le plus proche. Mon père était étonné. Chaque fois qu'on m'envoyait acheter de la boisson sucrée, avant je faisais 5 minutes. Mais désormais, je commençais à faire 20. Il me disait, mais Roland, tu achètes au même endroit. C'est qu'il ne savait plus loin, parce que de l'autre côté, il y a Fatou. J'oublie jamais un jour, mon père m'a dit, Roland, viens, je t'accompagne à la boisson. Je lui ai dit, mais ça, les jours là-bas, il n'y a pas. Il y a un autre là-bas. Il m'a dit, non, on y va. J'ai tenu sa main, je peux vous dire, j'ai tremblé tellement que je fais comme les quinois, je ne sais pas les mots en français, à Tom Sobatang, en école à bien, j'ai piclé. En français, on dira quoi? Je fais quoi? Bien serré, c'est pour ne pas trembler. Maître Charlie, maître. Bon, piclé. Et je marche. Et j'oublie jamais. On est sorti. Il y avait une Zobé 1, Zobé 2. On a fini Zobé 2. Et puis on a pris pour prendre chez Luango 1. Dès qu'on a courbé, je l'ai vu. J'ai dit, comme je suis d'Engueba, j'ai dit, Mambo Masobele. Les affaires sont mal parties. Il avait vu d'abord ma tête. Je l'ai vu s'avancer. Et puis il a vu mon père. Il a freiné. J'ai tremblé. Mon père m'a dit, Roland, ça va. J'ai dit, ça va. Comme cet ami, ces jours, il tremblait tellement. Quelqu'un lui pose la question, tu trembles? Il dit, je ne tremblais plat. Les tremblements atteint jusqu'à la langue, mais ni, je tremblais plat. J'ai tenu la main de mon père. Et quand on avançait, je le voyais seulement. Il me faisait ça. J'ai compris, il voulait dire, oh, qui pose à naïe. Tremblé, mais j'allais avec mon père. J'aimerais dire à quelqu'un tient ta main. Là où il te demande de rentrer, il y a Jézabel. Mais papa est là. Papa est là. Viens avec moi, papa est là. Et celui qui tiendra en respect tes ennemis. Alors que Josué devait jouer les premiers rôles, quatre choses ont failli l'amener à se cacher dans une caverne. La première, la carrure de l'homme qu'il succédait. Timide Josué. Deuxièmement, la grandeur de la tâche par rapport à ses petites aptitudes. Troisièmement, le peuple qu'il devait diriger. Trop grand, têtu, enclin à toutes sortes de comportements. Et puis enfin, quatrièmement, la conscience qu'il avait des limites. Quelquefois, nous sommes trop conscients de nos limites. Ils ne sont pas conscients de la capacité de Dieu. La victoire, souvent dans les choses de Dieu, c'est la faiblesse de l'homme associée à la toute puissance de Dieu. Combien de fois il ne dit pas, j'ai serré avec toi. J'ai serré avec ta bouche. Ah. Et Dieu a dit à Josué, à plus de quatre reprises, dans Josué 1, 6 à 9, bizarre, il ne dit pas, je vais te fortifier. Il dit, fortifie-toi. Que toi, fortifie-toi. Fortifie-toi et bon courage. Sois fort. Aide-moi à dire à ton voisin, à ta voisine, fortifie-toi. terminant, j'ajoute ces trois choses en appendice en disant, premièrement, les cavernes d'autrefois étaient physiques, visibles et palpables, mais les cavernes d'aujourd'hui sont spirituelles et mentales. Elles s'appellent complexe d'infériorité, elles s'appellent culpabilité, elles s'appellent remords, elles s'appellent autocondamnation, dues à des erreurs, à des scandales, des échecs dans la vie maritale. À cela, j'aimerais dire, Dieu m'a dit de faire la prière que Samson a eu à faire. Dans Juges chapitre 16, versets 28 et 30, la Bible nous parle de deux choses. La prière faite par quelqu'un qui était dans une caverne. Caverne de l'échec. Les yeux crevés, pleins de culpabilité. J'aime. Écoutez, la Bible, ma Bible m'a dit, alors Samson invoqua l'Éternel. Et dit, Seigneur, souviens-toi de moi, je t'ai pris. Oh Dieu, donne-moi la force seulement cette fois. Dites avec moi, cette fois. Il veut dire, avant j'ai raté, avant j'ai gaspillé. Il veut dire, donne-moi encore une autre chance. Donne-moi encore une autre chance. Donne-moi encore une. J'aimerais dire à quelqu'un, caverne, demande à Dieu, donne-moi cette fois-ci encore. J'ai fauté, j'ai manqué. Et le verset 30 dit, c'est qu'il fit périr à sa mort, nombreux que ce qu'il a tué pendant sa vie. Alors qu'il était dans la caverne de la prison chez les Philistins, son palmarès était arrêté. Alors que Dieu savait, il y avait encore des victoires, et même des victoires plus que celles d'avant. Deuxième chose avant que je termine, les cavernes sont des endroits où nous sommes appelés à nous y retrouver. Bon moment, c'est à la fin de notre vie. À l'époque de la Bible, les cavernes étaient un endroit où reposaient les cadavres, les corps sans vie de ceux qui ont fini leur parcours. Genèse 23, verset 19, nous montre qu'Abraham est allé déposer les corps de Sarai dans une caverne. Genèse 49, verset 29, Joseph dit à ses frères, quand je vais mourir, plutôt Jacob, mettez-moi dans telle caverne. Il y a des moments où la caverne est l'endroit où nous devons nous retrouver. Mais avant, ce n'est pas bon. Et je n'aimerais pas me retrouver à la caverne avant. Et je termine avec une dernière chose. La spécialité de Jésus-Christ était de sortir des cavernes ceux qui s'y trouvaient trop tôt. Dans Jean 11, versets 38 à 43, un homme s'est retrouvé à la caverne trop tôt. Lazare, 4 jours, subissant les effets de la caverne. Et quand Jésus pose la question, il dit, où l'avez-vous mis? Ils ont dit, à tel endroit, dans une grotte. Les termes grottes sont aussi cavernes. Il dit, ôtez la pierre. De la même manière, Dieu avait dit à Élie, sors! Jésus-Christ aussi a dit, sors! Et on a vu quelqu'un dont les gens avaient pensé que le parcours était fini. Les gens de son quartier avaient chanté comme à Kinshasa. Tato yoto fandi na ye. La Bible dit, ils l'ont vu sortir. Je prie que quelqu'un sorte de la caverne. Mais dans Jean 21, versets 1 à 3, et puis versets 15 à 17, un homme pour qui Dieu avait un plan, et Christ lui avait donné ses plans dans Matthieu 4, 19, il dit, viens, je ferai de toi pécheur d'homme. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible est un jusqu'au boutiste. Et sur le chemin de l'accomplissement de ses plans, il a fauté. Et dans Jean 21, 1 à 3, il est allé dans la caverne de la pêche. Il a voulu retourner là où Dieu ne le voulait plus. Et Christ est allé le chercher dans cette caverne. Et à 3 reprises, il a appelé à l'action. Va et paie mes brebis. Va et prends soin de mon troupeau. Je l'ai dit encore à quelqu'un, que fais-tu ici? Et je te dis aussi, sors de ta caverne. Laissons-nous taille. Je suis touché.